Bonjour, il est 14h03 sur France Inter, l'heure de 2000 ans d'histoire avec aujourd'hui un sujet rarement traité par les historiens, 1914-1918, Paris pendant la Grande Guerre.
Les cafés et les boulevards regorgent de gens qui n'ont pas l'air de savoir que nous sommes en guerre. À quoi bon risquer sa peau pour ce monde-là ? Un poilu en 1917.
D'histoire. Quand on parle de la Grande Guerre, c'est presque toujours pour en rappeler les batailles. La Marne, Verdun, la Somme, et la misère, le désespoir ou la mort des soldats dans ce qui fut une des plus grandes hécatombes de l'histoire. Mais la guerre de 14-18, c'était aussi, on en parle rarement, la vie de tous les jours, dans ce que les poilus appelaient avec mépris l'arrière. Ces millions d'hommes et de femmes qui pendant 4 ans ont été mobilisés dans les usines ou dans les champs pour approvisionner le front, en armes, en munitions ou en vivres. Et c'est aussi le rationnement, les couvre-feux, les bombardements, l'insouciance de ce qu'on appelait les planqués, les bonnes affaires des profiteurs de guerre, mais surtout l'angoisse de ceux qui dans les gares parisiennes voyaient partir un père, un mari, un frère, un fiancé ou un ami, dans ce qui, en août 1914, devait être une guerre courte et bien entendu victorieuse.
Il n'en a pas pour longtemps.
Vous voyez ?
Et votre mari, il est dans quelle arme ?
Dans l'infanterie. Et vous ?
Le génie.
C'était Tu le reverras, Paname, une chanson de Suzanne Valroger en 1917. Pierre Darmon, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'écrire chez Hachette Littérature un livre passionnant, Vivre à Paris pendant la Grande Guerre. Alors c'est un sujet qui est très rarement traité, je le disais, par les historiens de la guerre de 14 qui s'intéressent plus souvent aux batailles qu'à ce qui se passait à l'arrière. Et notamment à Paris où sont passés presque tous les mobilisés d'août 1914. On disait souvent qu'ils partaient la fleur au fusil. Or dans votre livre, vous rappelez que c'était pas le cas, hein, que l'atmosphère à la gare de l'Est, c'était pas du tout aussi gai qu'on l'a souvent dit.
Oui, absolument. Il y a une imagerie d'Épinal qu'il faut modifier, qu'il faut nuancer du moins. Il n'y avait pas cette atmosphère de joie délirante qu'on nous a décrite par la suite. Effectivement, l'Union sacrée est une réalité. On part avec le sourire, parce que lorsque les caméras vous filment ou lorsque on braque sur vous un appareil photographique, il y a un réflexe qui fait que l'on sourit, mais au fond, on est beaucoup plus triste que cela et beaucoup plus sceptique. Alors il y a un grand silence qui domine cette foule, tout le monde est dans la rue, non pas pour fêter le départ à la guerre, mais parce qu'on se presse autour des kiosques à journaux, c'est le seul moyen d'avoir des informations. On n'est pas autour de son poste de radio à l'époque.
D'autant plus que très vite, l'optimisme du début a tendance à disparaître. L'avance allemande approche de Paris, hein, jusqu'à la Marne, on le sait. Si bien d'ailleurs qu'en 14, comme en 40, mais en 14, on l'oublie parfois, le gouvernement lui-même est parti à Bordeaux, pour quelques semaines.
Oui. En effet, c'est l'effet du plan Schlieffen. Les Français avaient dans leur carton un plan sentimental, partir à la reconquête de l'Alsace et de la Lorraine. Et alors, on va foncer sur Mulhouse, effectivement, on va s'emparer pendant quelques jours de Mulhouse, mais d'un point de vue stratégique, cela n'a aucune valeur. Les Allemands adoptent le plan Schlieffen, c'est-à-dire ils violent la neutralité de la Belgique, et au terme d'un vaste coup de cerf, de Serpe, il tente de prendre l'armée française dans la nasse.
Et alors là, le gouvernement part.
Et alors là, le gouvernement est affolé parce que les premiers éclaireurs arrivent à Pontoise, donc les Allemands sont pratiquement à 30 kilomètres de Paris. Donc le gouvernement part, les Parisiens, une grande partie des Parisiens partent, c'est le premier exode, mais fort heureusement, le plan de la bataille de la Marne va débloquer la ville de Paris et le front va se stabiliser.
Alors ceux qui restent à Paris aussi s'en prennent, alors il y a des manifestations contre l'empereur d'Allemagne, mais on s'en prend même à des magasins, à des restaurants ou à tous ceux qui ont des noms à consonance germanique. Hein, on dévalise l'entreprise des Bouillons Cubes, on débaptise la rue de l'Allemagne hein, qui devient l'avenue Jean Jaurès, et même la rue de Berlin hein, qui devient la rue de Liège parce que la Belgique était notre allié. Tout ça est entretenu par une presse, vous le rappelez, très patriotique, très chauvine, Pierre Darmon.
Et effectivement, on ne parle pas de Boche à l'époque, mais on commence à parler des Alboches. Il y a un déferlement de haine anti-germanique qui est absolument délirant. Et on s'en prend eh bien à tous les noms qui ont une consonance plus ou moins.
Mais la presse germanique là-dedans, parce que vous rappelez que c'est une presse qui en rajoute en quelque sorte dès le début de la guerre, et puis une presse aussi qui va être pendant toute la durée de la guerre, qui va être très très étroitement surveillée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le canard enchaîné s'appelle le canard enchaîné, qui paraît en 1916.
Oui.
Alors, c'était en fait une presse de propagande.
C'était une presse de propagande, mais dans ses excès, effectivement, la presse va manquer son but, parce que on nous décrit les Allemands, effectivement, comme des gens extrêmement cruels. On les décrit même comme des demeurés mentaux dans certains cas, et on s'aperçoit finalement que ça dure. Et que les Allemands, finalement, ne sont pas
aussi méchants qu'on le dit.
Si méchants, ni si inefficaces qu'on le dit.
Auriez-vous lu cette chose? Lisez-la moi, voulez-vous?
Les adorateurs de l'Allemagne font salon à Paris, dînent et festoient comme si la guerre n'existait pas. Pire, célèbrent nos ennemis et souhaitent haut et fort l'écrasement de la France.
Mais ces articles de journaux destinés à exciter l'enthousiasme universel, vous les lisez?
Parfois, cela m'arrive.
Toute cette presse patriotique manque de talent. La voilà la vraie raison de tant d'inepties.
Madame de Forgeville, je suis vraiment désolé. Nous devons fermer les cuisines.
Mais le couvre-feu est en avance?
Ah non, il est à l'heure.
C'était un extrait du film de Raoul Ruiz, Le Temps Retrouvé. Les sirènes interrompaient très souvent les soirées parisiennes, et cela dès le début de la guerre. Hein, il y avait un couvre-feu parce qu'il y avait des bombardements dès le début de la guerre, Pierre Darmon.
Alors, dès 1915, les Zeppelins, qui sont des mastodontes volants, des dirigeables, bombardent Paris avec des bombes de 300 kilos qui peuvent faire très mal. Et les Zeppelins vont faire quelques centaines de victimes, 200 à 250 victimes à Paris. Pour l'époque, c'est quelque chose de monstrueux que la guerre puisse, que la mort puisse venir du ciel et toucher des personnes innocentes, des civils, c'est quelque chose d'absolument monstrueux. Et il y a le couvre-feu, la descente à la cave.
On peint en bleu les vitres et les réverbères.
Et les réverbères, il y a tout un... La défense passive se met en place.
Alors Paris souffre des bombardements. Vous rappelez aussi qu'il va souffrir du rationnement dès le début de la guerre, Pierre Darmon.
En effet,
Il y a des tickets de rationnement.
Il y a des tickets de rationnement, et ça, pour un ensemble de raisons. Il est impossible de toutes les citer, mais une grande partie des paysans sont au front. Une grande partie de la production agricole est détournée vers le front. Les transports sont désarticulés et mis au service du front.
Comme les taxis de la Marne,
comme
par exemple,
les taxis de la Marne.
1914,
Donc tout cela fait que le ravitaillement est très mal fait. Et donc on va très vite manquer d'un certain nombre de denrées alimentaires, et le ravitaillement d'une ville comme Paris est soumis aux aléas de la conjoncture militaire.
Oui, parce que l'énergie aussi, la houille est entre les mains, les mines de houille du Nord sont entre les mains des Allemands, donc on rationne le gaz, l'électricité.
Effectivement, 80% de la production minière de la France est en zone occupée.
Et alors ça, c'est le Paris qui souffre, Pierre Darmon, mais il y a aussi le Paris, on l'a entendu tout à l'heure dans l'extrait de film, qui s'amuse. Hein, vous rappelez que les cinémas, les théâtres, les salons n'ont pas désempli pendant 4 ans.
Alors, les théâtres font salle comble, les files d'attente s'allongent devant les cinémas. Paris donne l'impression d'une ville qui s'amuse, et dans certains cas, il est vrai que Paris s'amuse. Seulement, il faut faire très attention. C'est quand même une petite minorité qui fréquente le Café de la Paix, qui fréquente le Sintra, qui fréquente le Tipperary, qui fréquente les cinémas et les théâtres. L'immense majorité des Parisiens et des citadins est dans les usines, est soumis à des cadences infernales.
Il y a aussi un Paris qu'on a un peu oublié, ou même d'ailleurs dont on a rarement parlé, c'est par exemple le Paris des escrocs. Alors bien sûr...
Oui.
Tout le monde connaît par exemple Landru, hein, qui a profité de la solitude des femmes à Paris. Mais il y a vraiment des escrocs qui profitaient précisément de la détresse des Parisiens.
En effet, la gendarmerie est sur le front. La police parisienne est dégarnie. Et il y a une atmosphère de crédulité qui va favoriser le développement d'une escroquerie que l'on peut qualifier d'escroquerie de guerre. Alors, je ne citerai qu'un exemple tout à fait artisanal. Un monsieur tout de noir vêtu, présentant bien, se présente au domicile d'une jeune femme et lui déclare « Madame, je suis mandaté par le ministère de la guerre. J'ai la douleur de vous apprendre la mort de votre mari. Il est mort pour la France. Est-ce que vous pourriez m'avancer quelques liquidités ?» pour le transfert du corps. Cela vous sera remboursé par le ministère de la guerre. Alors immédiatement, la malheureuse se précipite dans la rue, appelle un agent de police et fait arrêter le bonhomme.
Et
le mort était en permission.
Ah, c'est affreux, enfin on rit, mais c'est pas
il a été, naturellement, il a été arrêté, jugé, incarcéré, mais il avait fait ce coup-là à plusieurs reprises, et les familles étant désemparées, effondré de douleur, donner n'importe quoi.
Alors les permissionnaires, vous en parlez beaucoup, Pierre Darmon, ils étaient à la fois fascinés et dégoûtés aussi de ce qu'ils voyaient à Paris quand ils y passaient. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Oui, plus la guerre dure, plus les poilus éprouvent du ressentiment à l'égard de l'arrière, donc notamment à l'occasion de ces permissions. En avril 1916, par exemple, le fantassin Charles Delvert n'en revient pas du spectacle insouciant de Paris. Paris, dit-il, est délicieux, les arbres sont verts, le soleil brille, les gens vont à leurs affaires, il fait bon vivre, le Café de la Paix est plein de jolies femmes et de chalands qui les accompagnent. On comprend que les gens de l'arrière se résignent à la guerre. Ce qui est consolant, dit-il avec amertume, c'est que si on meurt au front, on ne sera pas pour tout le monde une perte bien sensible. Alors dans ce décor bien polissé, effectivement, le poilu sent un peu mal à l'aise. On le regarde souvent d'ailleurs comme une bête curieuse. Le poilu, dit l'un d'eux en 1916, c'est celui que tout le monde admire, mais dont on s'écarte lorsqu'on le voit monter dans un train, entrer dans un café ou un magasin, de peur que ses brodequins salissent ou que ses paroles soient trop crues. Le poilu, c'est celui dont personne à l'arrière ne connaît la vie véritable. Et oui, hein, deux mondes coexistent en s'ignorant. D'ailleurs, dans le roman d'Henri Barbus, le feu, un des personnages, Volpatte, un poilu en permission, s'exclame. Il n'y a pas un seul pays, dit-il, il y en a deux pays étrangers, ceux qui donnent et ceux qui prennent. Et Céline aussi, hein, Louis-Ferdinand Céline, dans Voyage au bout de la nuit, s'en prend aux civils. Les civils, à l'arrière, ils devenaient, à mesure que la guerre avançait, de plus en plus vicieux. Tout de suite, j'ai compris ça en rentrant à Paris. Et aussi que leurs femmes avaient le feu au cul. Alors, à propos des femmes, l'histoire vraie du soldat Léon de Mangeon rentrant chez lui pour une permission. Je sortais de l'enfer et je croyais arriver au paradis. Lorsque ses voisins lui disent, votre femme a déménagé, vous ne demeurez plus ici. En 1917, le désenchantement fait souvent place à de la colère et même à de la haine. Par exemple, on s'en prend aux travailleurs immigrés. La police rapporte ce propos tenu dans un café de la rue Clignancourt. Quand va-t-on se décider à mobiliser tous ces gens-là? Et un soldat mutilé déclare « Alors nous, on irait se faire casser la gueule dans les tranchées pendant que ces Espagnols qui nous trahissent gagneraient notre argent ?» On s'en prend de manière générale au planqué, hein, réel ou imaginaire. La police, encore, rapporte ses propos de la rue. Le fils de tel député n'a passé que 6 mois au front, mais il a trouvé le moyen d'obtenir une croix de guerre et de se faire embusquer ensuite. Alors, l'aviation, hein, bizarrement, a une mauvaise réputation. Cette arme est choisie par tous les fils de famille qui désirent se mettre à l'abri des balles. Alors, les récriminations sont parfois plus politiques, comme cet ouvrier en février 18. Cette guerre est source de profit pour les capitalistes qui l'ont déchaînée. La classe ouvrière, elle, est la seule à faire preuve de patriotisme, mais il est à craindre qu'elle se lasse.
Un commentaire sur ces textes qui sont tirés de votre livre, Pierre Darmon, sur ce que vous appelez le malentendu entre les civils et les militaires, entre Paris et le front, autrement dit, c'est même un fossé, en fait, plus qu'un malentendu.
Absolument. C'est un fossé, c'est un mur de haine qui sépare le permissionnaire des gens de l'arrière. Et pour une raison fort simple, c'est que ce que voit le permissionnaire, il voit ce qui est visible. Il ne va pas dans les usines pour prendre conscience de ce que peuvent être pour les femmes, pour les travailleurs, pour les travailleurs immigrés, des cadences de travail absolument infernales pouvant aller jusqu'à 14 à 15 heures par jour.
Oui, mais ça, on en reparlera, mais il vient aussi, forcément, il est en permission pour se distraire. Or, en vous lisant, on s'aperçoit, par exemple, que, certes, dans la rue, on dit, c'est un formidable militaire, mais dans les cabarets, dans les cinémas, on ne veut pas de lui, il gêne, il dérange.
Il gêne parce que les gens de l'arrière ont mauvaise conscience. Vous savez, quelquefois...
Il y a ce qu'on appelle les planqués ou les embusqués.
On contracte envers certaines personnes une dette de reconnaissance si grande qu'il y a une certaine gêne lorsqu'on les rencontre, et là, c'est le cas.
Et eux, alors, vous le disiez, ne voient pas précisément le fait que la plupart des Parisiens qu'ils rencontrent travaillent pour les besoins du front, et qu'on leur demande d'ailleurs même de souscrire aux emprunts de guerre. Écoutez cette archive et cette chanson de 1915.
Il faut que leurs Français travaillent, lui aussi. Il ne suffit pas que vos fils et vos gendres soient à l'armée et versent leur sang pour le salut de tous, pour le bien de la France. Il faut aussi que l'État fournisse aux combattants des canons, des munitions, des habits, des vivres. Tout cela se fait.
J'ai circulé chez le Fougnat, et même chez Madame Tirmoisin, c'est la guerre. Et la grande cocotte maintenant, au lieu qu'un sou vous prend, un grand, c'est la guerre.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Paris pendant la guerre 14-18.
Et c'était Assez la guerre, une chanson de 1914 par Henri Hesse. Alors à l'arrière, on vient de l'entendre aussi, et vous l'écrivez, Pierre Darmon, on participait beaucoup à la guerre, toute la population, l'essentiel, la majeure partie de la population était dans les usines, et cela malgré la pénurie d'ouvriers, parce qu'ils étaient presque tous sur le front. Et là, on fait appel à des travailleurs étrangers, on l'a entendu dans les textes tout à l'heure, mais aussi beaucoup, on le sait, à des femmes.
On fait appel à des femmes. Les fameuses munitionnettes, et on s'aperçoit avec stupéfaction que les femmes sont tout à fait capables de faire des travaux que l'on attribuait généralement à des hommes. On les voit faire de la soudure autogène, de travailler dans des bacs d'électrolyse, des choses absolument...
Dans les transports aussi,
dans les transports.
On appelle ça les mécanotes ou les what women.
Les what women, et... dans les usines de munitions, plusieurs fois par jour, des dizaines, peut-être même des centaines de fois par jour, elles transportent à la fois 8 kilos d'obus d'une seule traite d'un bout à l'autre de l'atelier, ce qui représente un effort absolument colossal. Alors le grand problème, ça va être, mais que va-t-on faire de toutes ces travailleuses après la guerre ?
Voilà, mais d'ailleurs elle le pose elle-même, parce que d'abord on les voit se mettre en grève assez souvent, Pierre Darmon, pour réclamer, parce qu'elles faisaient le même travail que les hommes, mais elles étaient moins bien payées qu'eux déjà.
C'est
un vieux problème. Et puis évidemment commence à germer l'idée, qui d'ailleurs ne sera plus tard, réalisée que beaucoup plus tard, l'idée du vote des femmes.
Absolument. Les femmes prennent conscience de leur vote, de leur importance, et cela fait très peur aux hommes, et cela fait très peur aux syndicats.
Et elle change aussi de tenue vestimentaire. Hein. On s'aperçoit quand on voit des photos de l'époque qu'avant 14, bon, il y avait une mode qui n'avait pas tellement changé pendant tout un siècle, et puis que brusquement, elle est modifiée un peu par ce nouveau comportement, au fond, des femmes au travail pendant la guerre.
Oui, alors, cela va donner naissance à un type bien spécial, la garçonne. Mmh. Mais en réalité, la fin de la guerre se traduit par une remise au pas des femmes. Mmh. On va leur faire réintégrer leur foyer.
Oui. La fin de la guerre aussi, Pierre Darmon, vous le rappelez, pour Paris, c'est vraiment des épreuves de plus en plus difficiles. D'abord, il y en a deux. Hein. Il y a la Grosse Bertha, les bombardements de la Grosse Bertha, et puis il y a la grippe espagnole. La Grosse Bertha, il faut rappeler ce que c'était. C'était un canon qui était installé en forêt de Compiègne, à 120 km de Paris, et qui était si puissant qu'il pouvait atteindre Paris. Et ça a été terrible pour les Parisiens.
Alors, effectivement, la Grosse Bertha, c'était ce canon qui était camouflé dans la forêt de Saint-Gobain, à 120 km de Paris, et qui, certains jours, tous les quarts d'heure, tirait un obus géant. En tout, elle a fait, cette Grosse Bertha, elle a fait 250 morts, approximativement, et la journée la plus terrible a été la journée du 29 mars 1918, lors de l'Office des Morts, c'était Vendredi Saint, lors de l'Office des Morts, un obus de Bertha détruit l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Et cela a énormément frappé les imaginations. Et la Grosse Bertha est entrée dans la légende à la faveur de cet épisode.
Oui, parce qu'il n'y a pas eu, finalement, tellement de morts, mais ce qu'il y a, c'est que la Grosse Bertha faisait infiniment plus peur que les bombardements du début de la guerre, parce qu'on les voyait arriver, la Grosse Bertha, non.
Alors, les Gotha, les Zeppelin et surtout les taupes du début qui amusaient tout le monde, on les voyait arriver, on pouvait prendre ses précautions, on descendait dans les caves, mais la Grosse Bertha, elle frappait à l'improviste, un peu comme les V2 à Londres, ça arrivait, il n'y avait rien à faire. Hein. Donc,
ça faisait peur, quoi.
On avait peur que ça vous tombe dessus. Surtout, un canon qui tire à 120 km de là, ça fait travailler les imaginations. Si les Allemands sont capables d'une telle prouesse technologique, c'est qu'ils sont plus forts que nous. Et c'était le but de l'état-major allemand, frapper les imaginations, parce que d'un point de vue stratégique, la Grosse Bertha n'avait strictement aucune importance.
Je croyais d'ailleurs, je crois qu'il y avait des espions allemands qui indiquaient aux Allemands à quel endroit tombaient, de manière à rectifier le tir, à quel endroit tombaient les obus.
Alors, l'espionnage allemand était extrêmement bien organisé et 4 heures après un bombardement de Paris, la Gazette des Ardennes, qui était un journal sous contrôle allemand, annonçait l'endroit exact, le point de chute et quelquefois le nom des locataires des immeubles touchés par les obus. 4 heures après, c'était extrêmement bien organisé, cet espionnage allemand, et on n'a jamais piqué un seul espion allemand. C'était vraisemblablement de bons patriotes qui avaient leur fils à la guerre et dont le fils se battait bien. Et là, il y a quelque chose qui a énormément impressionné les Français et donné d'ailleurs naissance au mythe de la cinquième colonne.
Autre épreuve, Pierre Darmon, alors terrible et beaucoup plus meurtrière, c'était la grippe espagnole qui commence à la fin de l'année 17.
Alors la grippe espagnole commence effectivement à la fin de l'année 17, enfin disons sa phase cruciale, mais c'est une épreuve mondiale. En France, elle a tué 210 000 personnes. Alors elle commence par frapper les travailleurs immigrés, on parle de grippe des anamites, de peste des anamites. Elle frappe en priorité les anamites, non pas parce qu'elle est spécifique de la race anamite, mais parce qu'ils vivent dans des conditions de détresse physiologique telles que la maladie en fait sa proie. Et peu à peu, elle s'éteint à l'ensemble de la population.
Et puis elle va même toucher un écrivain célèbre qui était Guillaume Apollinaire, hein,
et Maurice Rostand. Ouais.
Non, je citais Guillaume Apollinaire parce que Guillaume Apollinaire est mort le 11 novembre 1918. Oui. Et alors il y avait des manifestants, je crois, qui criaient « à mort Guillaume », pensant évidemment à l'empereur d'Allemagne Guillaume II, et Apollinaire est mort en croyant qu'on l'insultait dans la rue.
Oui, c'est absolument terrible.
Et c'était le jour de la victoire, donc le 11 novembre 1918.
Ça y est, ils ont signé. C'est fini.
Regardez.
La guerre est finie.
La guerre est finie.
Venez, venez. Écoutez ça.
C'est pas possible, c'est fini.
A été signé à 5h. Le triomphe de la France.
La Marseillaise que vous entendez, en tout cas au tout début, c'est pas du tout un extrait de film comme on l'a entendu au début de cette archive. C'est une des plus vieilles archives de la radio. La cantatrice Marthe Chenal au balcon de l'Opéra le soir de l'armistice du 11 novembre 1918. Sans doute la plus belle Marseillaise qui a entendu les Parisiens. C'était un jour de liesse, évidemment, pour eux, le 11 novembre. Pierre Darmon, le 11 novembre 18.
C'était la fin d'une période noire. Et les Parisiens, l'ensemble des Français, en ont été tellement traumatisés qu'ils ont versé dans un patriotisme qui, dans un pacifisme, qui nous a peut-être coûté cher. On ne voulait absolument pas recommencer, d'où Munich. En plus de cela, les Français étaient contents. Ils avaient récupéré l'Alsace-Lorraine, ils étaient la première puissance militaire du monde. Ils n'avaient rien à demander à personne, ils ne demandaient qu'une chose.
Ça, c'est pour la France, mais pour Paris, évidemment, c'est aussi un tournant dans l'histoire de Paris. Qu'est-ce qui reste? Quelle trace a laissé la première guerre pendant ces 4 ans que Paris a passé tout près du front, Pierre Darmon?
Il en est resté un sentiment de fragilité tel que les Parisiens ont décampé en 1940.
Ah oui, c'est un lien, évidemment.
En constatant que le même scénario se reproduisait et que finalement, on était plus à l'abri partout ailleurs.
Merci en tout cas, Pierre Darmon. Pour en savoir plus sur cette période, je recommande la lecture de votre livre. Il est passionnant, il est écrit, je crois, avec des archives qui n'ont jamais été exploitées. Vous avez travaillé sur ces archives de la préfecture de police de Paris.
À la préfecture de police de Paris, il y a un dossier d'archives passionnant qui est le dossier de la brigade spéciale. Ça a été des inspecteurs de police qui étaient chargés d'écouter les conversations et de faire des rapports. Alors évidemment, c'est une mine.
Et ça a été donc c'est un livre, votre livre, Vivre à Paris pendant la Grande Guerre. Un livre de Pierre Darmon publié chez Poche, en poche chez Hachette dans la collection Pluriel. Vous êtes également l'auteur de Médecins parisiens en 1900, publié chez le même éditeur. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Le Temps retrouvé de Raoul Ruiz, La Chambre des officiers de François Dupeyron, ainsi qu'une archive extraite de l'encyclopédie Sonore Bordas, Mémoire du XXe siècle. Tous ces renseignements, vous pouvez les trouver, vous le savez, au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission.